journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. Pendant 30 minutes, l'antenne d'Africa numéro 1 vous appartient. Aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, nous attendons vos commentaires sur la coopération sino-africaine. Le forum pour la coopération entre l'Afrique et la Chine s'est conclu aujourd'hui à Beijing. Le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ne cesse d'augmenter depuis 10 ans. Il a atteint 170 milliards de dollars en 2017. Pas une ville africaine n'échappe au génie chinois. Pont, stade de l'amitié, la coopération avec la Chine permet aux pays africains de se doter d'infrastructures souvent coûteuses. D'ailleurs, Pékin a annoncé une enveloppe supplémentaire de 60 millions de dollars d'aide sans condition. Alors, que pensez-vous de la coopération sino-africaine? Peut-on parler de coopération gagnant-gagnant? Et l'aide chinoise est-elle vraiment sans condition pour les Africains? Nous demandons son avis au docteur Khalid Niang. Il est docteur en sociologie, chercheur associé dans le programme Chine-Afrique du CODESRIA, le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique. Pour participer, nous faire part de vos commentaires et de vos questions, composez dès maintenant le 01 55 07 58 00 si vous êtes en France. Et si vous nous écoutez depuis partout ailleurs dans le monde, composez le 00 33 1 55 07 58 00 pour intervenir. Mais avant de parler du sujet du jour, je vous propose d'écouter quelques messages que vous nous avez laissés sur le répondeur d'Africa numéro 1.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Bonjour les amis du JDA, c'est Touré. Et je vous invite les amis à aller vérifier les images des partisans du BKIA qui ont manifesté. Quel échec! Et faites la différence entre ce manifestant d'hier, soi-disant partisans du BK, et l'opposition qui, après la crise post-électorale, a organisé cette manifestation synchronisée partout dans le Mali, dans le monde, au Mali, dans les cercles, dans les villes, dans les arrondissements, Bamako, partout c'était synchronisé. Allez-y voir la différence entre la marche de l'opposition et celle du BK hier, des partisans du BK. C'est la honte, franchement. Mais c'est pas grave, on sait que c'est un monsieur qui n'a jamais été impressionné par les Maliens même. Il a toujours été impressionné par la communauté internationale, par les, ceux qui ont pris les armes, c'est eux qui l'impressionnent. Mais c'est aux Maliens de lui montrer maintenant que ce sont les Maliens qui votent. Ce n'est pas la communauté internationale qui l'impressionne. Voilà ce que je vais dire comme ça. Merci, Africa numéro 1.
Oui, allô, bonjour, JDA. Je voulais lancer un message pour tous les Maliens. Ce qui s'est passé au deuxième tour, l'élection présidentielle, EBK a été relu par les communautés internationales avec la tête de la France, Malienne Macron, et que les Maliens ne l'acceptent pas jamais, que EBK il est relié par la condition qu'il a remplie avec la communauté internationale. Donc, EBK, il n'est pas avec les Maliens. Les Maliens, ils ne veulent pas de lui. EBK, c'est pas un président qui mérite à faire le deuxième mandat au Mali. Merci, Julia.
Oui, alors bonjour, Africa numéro 1. Aujourd'hui, j'ai appris que Ibrahim Boubacar Keïta sera investi comme le président du Mali. Nous, la majorité malienne, ne reconnaît pas Ibrahim Boubacar Keïta comme le président du Mali. Parce que les majorités maliennes n'ont pas voté pour Ibrahim Boubacar Keïta. Le président Soumaïla, il a lancé un appel à tous les Maliens aujourd'hui, au mardi, des sorties massives d'aller se rencontrer aux brousses de travail. J'ai dit, les Maliens, le peuple malien va prendre leur destin à main. Ibrahim Boubacar Keïta ne sera pas reconnu comme président du Mali par les majorités les maliennes. Merci, que Dieu bénisse l'Afrique.
Bonjour, je vous invite, je suis le grand débat régulièrement. Il est question, j'entends parler de paix, merci, c'est pas partout qu'on entend parler de paix. Il y a une marche pour la paix qui se fait à Paris. 14h30, le 22 septembre à 14h30, place de la République. Donc je vous invite à passer le message que le plus grand nombre puisse marcher pour la paix, qu'on se réunisse pour la paix, qu'on puisse commencer à s'unir comme ça pour la paix dans le monde, bien entendu. Donc si vous voulez bien l'annoncer à tous les auditeurs, au plus grand nombre, voilà, le 22 septembre à 14h30, place de la République, marche pour la paix, unissons-nous pour la paix. Amen, merci.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Vous pouvez désormais intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 00 33 1 55 07 58 00. Aujourd'hui, nous attendons vos réactions sur la coopération sino-africaine à l'occasion du 7e FOCAC, le Forum pour la coopération entre l'Afrique et la Chine. Tout le continent semble s'être réuni à Pékin, sauf l'Iswatini, ex-Swaziland, qui n'avait pas fait le déplacement, restant fidèle à Taïwan. Alors que pensez-vous de cette coopération sino-africaine ? On en parle tout de suite avec le docteur Ralin Yang. Docteur Ralin Yang, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en sociologie, entre autres, et chercheur associé dans le programme Chine-Afrique du CODESRIA, le Conseil pour le développement de la recherche et en sciences sociales en Afrique. Alors tout d'abord, docteur Ralin Yang, depuis 9 ans, la Chine est le premier partenaire commercial du continent africain. L'empire du milieu est connu pour importer des matières premières et exporter ses produits manufacturés. Est-ce que les échanges commerciaux ont évolué en 9 ans ?
Il faut souligner que les échanges commerciaux entre les deux parties ont évolué dans le sens où il y a un excédent commercial qui a été remarqué pour un certain nombre de pays qui exportent en fait des produits, c'est-à-dire des produits, ce que je pourrais considérer comme étant ceux qui bénéficient de la rente, c'est-à-dire ceux qui exportent en fait des matières premières, que ce soit des matières premières agricoles ou des matières premières d'origine énergétique comme le pétrole ou les matières premières minéralières. Donc pour ces groupes de pays, on peut considérer qu'à leur niveau, ils connaissent ce qu'on pourrait considérer comme étant un excédent commercial. Mais pour un autre groupe de pays, il faut souligner que ces pays continuent donc de connaître ce qu'on pourrait considérer comme une sorte d'asymétrie dans les échanges, c'est-à-dire qu'ils ont une balance commerciale qui est tout à fait déficitaire.
C'est très clair, docteur Ralin Yang. Alors, Xi Jinping, le dirigeant chinois, a déclaré ceci: les investissements de la Chine en Afrique ne s'accompagnent d'aucune condition politique. La Chine ne s'immisce pas dans les affaires intérieures de l'Afrique et ne lui impose pas sa volonté. Est-ce une façon pour la Chine de se différencier des pays occidentaux ?
Si nous analysons bien, en fait, le discours du président Xi Jinping hier, c'est-à-dire il se positionne comme étant l'avocat du continent africain dans les instances internationales. Et il dit même que quand quelqu'un cherche à s'isoler sur une île, il risquera d'être seul. C'est-à-dire que c'est un message qui est voilé en direction des États-Unis d'Amérique avec une nouvelle administration qui cherche beaucoup plus en fait à développer une sorte de protectionnisme, une sorte de fermeture en fait des États-Unis d'Amérique et non une ouverture au-delà en fait du monde. C'est-à-dire pour lui aujourd'hui les communautés internationales, c'est-à-dire ces groupes de pays, que ce soit les pays du Nord comme les pays du Sud, doivent être regroupés au sein d'une communauté de destin, c'est-à-dire une même communauté de destin où ces différents pays-là sont interconnectés parce qu'il y a un lien de dépendance qui les pousse, qui les oblige à travailler d'un commun accord. Donc c'est ça en fait l'essence en quelque sorte de son discours, et là il se positionne comme étant l'avocat du continent africain.
C'est très clair d'ailleurs, le thème de ce 7e forum est communauté de destin et partenariat mutuellement avantageux. Restez à l'écoute, docteur Ralin Yang. On va donner la parole aux auditeurs qui sont nombreux à vouloir s'exprimer sur cette question. On commence avec Guy. Guy, bonjour.
Bonjour, Stéphanie.
Ah, bonjour, Guy. Guy, pouvez-vous enlever votre kit main libre, s'il vous plaît ? Vous êtes très loin. Si c'est possible.
Bah, vous m'entendez ?
Ah, beaucoup mieux. Bienvenue dans le JDA, Guy. Vous dites que les pays africains doivent faire bloc pour que le partenariat avec la Chine soit gagnant-gagnant.
Exactement, parce que vous savez, il y a un écrit qui dit que l'art de la guerre, c'est de faire croire à son ennemi qu'on est faible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si la Chine vient et parle avec chaque pays africain, il est plus fort. Mais par contre, s'il vient et parle avec un bloc, il est beaucoup moins fort et il y a un équilibrage qui se fait. Et le rapport gagnant-gagnant, je pense que c'est pas qu'il est inexistant, mais c'est aux Africains de faire de sorte qu'il existe vraiment. Pourquoi ? Parce que, je prends par exemple votre cas, vous, Stéphanie Hartmann, la radio vous a engagé parce que vous avez un savoir, vous avez des connaissances. Et ils vous ont pris parce que vous avez cette capacité de faire les choses qui font avancer la radio. Donc, si ils vous ont pris, ils n'ont pas pensé déjà à vous, mais ils ont pensé à eux d'abord. Je veux dire par là que c'est aux Africains de faire de sorte que ce rapport-là soit gagnant-gagnant, en demandant à la Chine qu'il y ait plus que de l'argent, mais qu'il y ait un transfert de connaissances, je pense qu'il se fait déjà, mais qui doit être encore plus accru. Pourquoi ? Parce qu'on sait que quand la Chine arrive quelque part, comme je disais à votre collègue, même le simple balayeur, sans minimiser qui que ce soit, dans un chantier, est chinois. On le voit ici à Paris, quand il y a des réparations à faire dans la construction, ce sont les sociétés chinoises qui le font. Il n'y a rien de mal à cela. Donc c'est à nous de faire de sorte que ce rapport soit gagnant-gagnant. Mmh. Et quand on dit que c'est sans condition, moi je ne crois pas que ça soit sans condition. C'est une grande puissance, elle vient pour faire des affaires. Mais il faut savoir que si jamais il y a quelque chose qui la dérange, elle va retirer ses billes. Donc voilà, c'est à nous, aux Africains, de se lever et d'aller plus loin que ce qui se fait. Parce que même en Côte d'Ivoire, même les Chinois font de la loco. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire ? Même ce qui paraît banal, on va dire le plus simple, ils le font. Pourquoi ? Ça veut dire ils font tout pour s'intégrer, pour prendre ce qu'il y a à prendre. Donc c'est à nous aussi, au-delà des affaires, qu'il y ait obligatoirement un transfert de connaissances, des formations, je ne sais pas, mais que les élites africaines qui discutent avec eux fassent de sorte que ça ne s'arrête pas à les 60 milliards, comme vous dites, je crois, ça ne s'arrête pas à ça, mais qu'on aille plus loin. Mmh. Voilà
c'est
mon avis.
Clair. Merci Guy d'avoir lancé ce débat sur la coopération sino-africaine. Je me tourne vers vous, docteur Ralignang. Il y avait plusieurs choses dans ce que disait Guy. Tout d'abord, la question de savoir s'il y avait une solidarité africaine dans cette coopération. Est-ce que les pays africains font bloc face à l'empire du milieu ? Guy rappelait également qu'au-delà des infrastructures, il y a énormément d'entrepreneurs chinois, d'entreprises qui s'installent sur le continent africain. Je voulais avoir peut-être votre avis là-dessus et sur aussi la condition. Voilà, Guy nous disait finalement. C'est pas sans condition. Qu'en pensez-vous ?
Oui, en fait, il faut savoir que le partenariat chinois est assis sur les cinq principes. Et dans ces cinq principes, il parle de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays africains. Il parle aussi du fait qu'ils n'ont pas le droit aussi de dicter en fait l'orientation économique de cet État-là. Mmh. Mais aussi, l'investissement chinois aussi ne doit pas être guidé par en fait des dictats que le pays qui accueillerait en fait ces financements devrait prendre en compte. Maintenant, sur la conditionnalité, moi je considère qu'à ce niveau, on peut parler d'une conditionnalité politique qui existe. Parce que la conditionnalité, c'est quoi ? C'est aujourd'hui, il y a tous les États qui ont un partenariat avec Taïwan ne peuvent pas bénéficier du soutien de la Chine. Ça, c'est une conditionnalité politique, même si on ne le dit pas. Parce que si il n'y a pas un État aujourd'hui qui a des relations avec la Chine et le Taïwan ensemble. Donc ça veut dire que si vous êtes avec Taïwan, vous ne pouvez pas bénéficier du soutien de la Chine. Donc ça, c'est une conditionnalité. Ça, il faut qu'on accepte que c'est une conditionnalité politique, même si on ne le dit pas, on ne le mentionne pas.
D'ailleurs, le Burkina Faso a dû rompre ses relations avec Taïwan il y a quelques mois pour être invité au FOCAC.
Voilà, donc on a assisté avec ce forum-là à la présence de. On a vu qu'il y avait en fait trois pays qui aujourd'hui ont rompu avec Taïwan pour se retrouver avec la République populaire de Chine, comme vous l'avez mentionné. Il y a le Burkina Faso, il y a la Gambie d'Adama Barrow et le Sao Tomé et Principe. Merci. Donc il y a trois nouveaux États qui ont rejoint un peu le giron de la Chine continentale au détriment de Taïwan. Autre aspect, je pense qu'il a souligné dans son développement, il a parlé un peu de l'absence de stratégie des pays africains, c'est-à-dire le fait de devoir faire bloc ensemble et d'aller négocier avec la République populaire de Chine. Il est vrai que c'est un peu véritablement paradoxal de voir qu'il y a 54 chefs d'État qui rencontrent un chef d'État et qui doivent discuter ensemble un peu de leur futur. Il est clair que moi, j'ai toujours postulé à ce qu'il y ait des blocs communs, comme la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, comme la CEDEAO, la CEDEAO, ou la SADC, ou le CEMAC, c'est-à-dire tous ces grands ensembles. Moi, j'ai toujours considéré que ce sont ces grands ensembles. Si ces grands ensembles ne peuvent pas se trouver avec l'Union africaine pour dire que voici l'agenda des pays africains et nous invitons la République populaire de Chine à nous retrouver autour de cet agenda de travail-là et définir les orientations vers lesquelles le développement pourrait se faire. Maintenant, les États ont choisi d'y aller séparément, de négocier séparément et de rentrer dans leur pays pour bomber le torse et dire que oui, nous sommes revenus de la République populaire de Chine avec une enveloppe de telle, avec un financement de telle. Je pense que l'Afrique gagnerait à se regrouper autour des grands ensembles comme la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et dire qu'au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, voici nos objectifs ou voici nos gérances. Nous voulons qu'il y ait des routes qui interconnectent l'ensemble des États de la communauté. Nous voulons un chemin de fer qui interconnecte l'ensemble des États de l'Afrique de l'Ouest. Et sur ce, je pense qu'il pourrait y avoir un maillage infrastructurel qui leur permettrait, à mon avis, de rattraper un peu le retard sur ces questions-là. Je pense qu'à ce niveau, les États ont failli, il faut le dire. Il faudrait qu'ils pensent beaucoup plus à y aller ensemble et ne pas continuer à aller séparément négocier avec la République populaire de Chine.
C'est très clair, négocier avec les organisations sous-régionales pour porter des politiques régionales, c'est ce qu'on comprend en tout cas dans votre propos, docteur Ralignan. Il reste à l'écoute, on se retourne du côté du Standard et on va du côté du Tchad retrouver Biak Soubo qui nous a envoyé un petit message sur Facebook. Monsieur Biak Soubo, bonjour, bienvenue dans le journal des auditeurs. Vous méfiez un peu de cette coopération? Vous dites que ces investissements ne sont pas une bonne chose?
Oui, madame, bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Je disais toujours que l'Afrique doit se réveiller. Parce que les aides qu'on leur donne, c'est comme si c'est des cadeaux empoisonnés, en fait.
C'est-à-dire?
Se réveiller et dire tout. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on met, demain, encore on met, je donne, poser des questions. Pourquoi on met souvent et moi, je n'aide pas les autres? Ils doivent se réveiller parce que ça, c'est, moi, je dis, je calcule ça, c'est comme des cadeaux empoisonnés. Parce que les intérêts sont colossaux de retour. Et puis, les Africains, ils comprennent pas au départ, en retour, maintenant, et puis, les intérêts sont colossaux. Ils doivent comprendre ça. Ils doivent poser toujours des questions.
C'est ça ma
préoccupation.
On a bien compris, Biak Soubo, vous parlez d'aide comme de cadeau empoisonné, c'est ce que vous avez dit sur Facebook d'ailleurs, vous avez écrit « L'aide n'est jamais gratuite en général et en particulier l'aide pour les Africains, que ce soit par la Chine, l'Amérique, la France, l'Allemagne, il y a toujours des intérêts en retour, c'est aux Africains de se réveiller et dire pourquoi m'aidez-moi et ne pas aider les autres. » Merci Biak Soubo de votre contribution à ce débat. Bonne journée du côté du chat. On va écouter un second auditeur avant de retrouver notre invité, le docteur Ralignan, par ordre d'arrivée. Je pense que c'est Sekou qui patiente depuis un bout de temps. Bonjour Sekou.
Oui, bonjour, vous allez bien?
Ça va très bien, et vous-même?
Oui, ça va. En fait, moi, avant de réagir juste sur la Chine, on a l'avantage avec vous de pouvoir parler, discuter et tout, et on se fait rectifier éventuellement si on raconte des bêtises. Mais des fois, j'entends des personnes parler sur les partis politiques, par exemple au Mali, où ils appellent des gens à manifester, à contredire le président. Je trouve que c'est très mal, parce que ça, on propose une guerre dans un pays, alors qu'on n'y vit même pas. On est à l'extérieur, on est posé tranquillement et on dit « Allez manifester, etc. etc. » et on crée des tensions.
On fait attention, mon cher Sekou, à ne pas diffuser d'appels à la violence, bien sûr. Et
ouais, parce que de pas, je saute de ma chaise quand j'entends des trucs, mais bon. sur la Chine, moi, ce que je voulais dire, c'est que il n'y a jamais rien de gratuit, c'est vrai, c'est une réalité. Et ce que j'ai vu, par exemple, en Guinée, où le président Alpha Condé a échangé des mines, d'une valeur minière en bauxite contre des infrastructures. Sauf que les infrastructures, les routes et ou les ponts, ça se dégrade, ça reste pas à vie. Donc c'est-à-dire l'entretien, c'est un autre frais aussi. Donc c'est pas calculé dans les échanges qui sont faits avec la Chine. Donc moi, je trouve que c'est des mauvais échanges qu'ils font en infrastructure, parce qu'ils peuvent faire des choses de mauvaise qualité et le financer à tel milliard, alors que ça en vaut vraiment pas le coup. Et ce que je trouve dommage aussi, c'est qu'il n'y a pas de transfert de technologie. On a vu, par exemple, au Japon, après les deux guerres qu'il y a eu, après les deux bombes qu'il y a eu, ils ont envoyé des gens aux États-Unis. Ils sont revenus, ils se sont refaits. Sauf que, par exemple, en Guinée, Sékou, il avait fait la même chose, sauf que les gens sont restés en France. Vous voyez, il n'y a pas de transfert de... Il n'y a personne qui essaye de ramener cette technologie, transformer, par exemple, le bauxite en alumine, faire de l'aluminium sur place en Guinée et vendre ceci, eux, de vendre des millions de tonnes de bauxite. Et il n'y a aucun intérêt, en fait. Donc, l'avantage de la Chine aussi, c'est que c'est les seuls qui donnent de l'argent, qui travaillent. Maintenant, l'Europe, ils ont à peu près arrêté. On vit dans un monde qui est en crise, d'après moi. Donc, c'est-à-dire la Chine, c'est les seuls qui sont capables à donner 60 milliards comme ça, à faire des travaux d'envergure, à s'endetter et tout. Mais ça reste, comment je peux dire, ça fait de la dépendance, en fait. Mmh. Voilà, ça crée de la dépendance.
Voilà. D'ailleurs, beaucoup brandissent, merci beaucoup, Sekou, de votre contribution. Hein, beaucoup brandissent, hein, en tout cas du côté de l'Occident, la crainte, la menace du surendettement. Docteur Ralignang, Sekou évoquait éventuellement la mauvaise qualité des infrastructures chinoises. Vous avez un avis là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un mythe, un cliché?
Je considère que certains disent qu'il y a une mauvaise qualité des infrastructures chinoises, mais je pense qu'on peut considérer que c'est beaucoup plus un mythe, parce que l'infrastructure en question, c'est une entreprise chinoise contractante avec les autorités du pays d'accueil. Si aujourd'hui cette entreprise-là construit une infrastructure, il y va des autorités compétentes de cette société d'accueil-là à trouver des entreprises qui viennent pour vérifier en fait l'état, le bon état de cette infrastructure-là. Parce que ce n'est pas en fait pour la plupart des dons, c'est des programmes de prêts où l'état qui bénéficie de cette infrastructure-là est dans l'obligation sur une durée longue de rembourser cet argent-là. Donc, c'est cet État-là qui déjà va facturer le chantier en disant aux autorités chinoises que telle entreprise a fini de faire tel chantier, vous devez libérer telle somme, parce que ce qui nous liait par rapport à la construction de ce chantier-là, cette entreprise-là l'a exécuté. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui accepter de signer pour que cette entreprise-là puisse être payée par l'Exim Bank of China, alors que le chantier en question recèle des manquements. Donc, à ce niveau, moi, si cela existe, je ne vais pas, en fait, pointer du doigt les entreprises chinoises, mais c'est-à-dire que y a des autorités qui sont chargées de contrôler du bon état de ce chantier-là. Donc, ça, c'est du ressort pas de l'État chinois, en quelque sorte, c'est du ressort des autorités locales. Il y a des bureaux de contrôle qui doivent donner leur stampille en disant que l'autoroute Abidjan-Boaké a été bien construite et c'est une autoroute qui est de bonne qualité. Si tel n'est pas le cas, vous dites à l'entreprise de reprendre, en fait.
On comprend bien, docteur Alignan, que la qualité finalement des ouvrages est à la hauteur des exigences, hein, du cahier des charges des pays. Il nous reste seulement quelques minutes d'émission. Je voudrais peut-être une réponse rapide sur la crainte du surendettement, hein. C'est ce que brandissent quelques analystes, hein. D'ailleurs, en 5 ans, hein, une dizaine de pays africains ont vu leur dette atteindre plus de la moitié de leur PIB. Est-ce que cet endettement n'est pas aussi une mise sous domination politique ou sous domination tout court?
Oui, je pense que quelque part aussi, depuis quelque temps, en fait, le signal est donné par rapport, en fait, au risque d'endettement qui concerne un certain nombre de pays comme l'Angola, comme le Tchad, comme le Soudan, et aussi un pays comme le Congo qui a eu des démêlés avec le Fonds monétaire international pour avoir caché, en fait, son niveau d'endettement. Mais il est clair qu'aujourd'hui, sur le continent africain, au regard en fait des manquements notés dans le domaine des infrastructures, les pays ont besoin de s'endetter. Maintenant, l'endettement doit être un bon endettement, c'est-à-dire un endettement sur des projets structurants qui leur permettent véritablement en fait de charrier l'étendue territoriale par des projets d'infrastructures dans le secteur ferroviaire comme dans le secteur routier. Et cela, à mon avis, va pouvoir tirer la croissance et leur permettre de pouvoir rembourser ces dettes-là. Mais sur le continent, je pense bien que pour aller vers la construction de certains nombres d'infrastructures, ces États sont dans l'obligation de s'endetter.
Ça nécessite.
Maintenant, est-ce que c'est un bon endettement ou c'est un mauvais endettement? C'est là où j'ai en fait la question.
L'avenir le dira peut-être. Restez encore à l'écoute, docteur Alignang. On va rapidement se diriger à Djibouti, retrouver Hassan. Hassan, bonjour.
Bonjour
Hassan. On a seulement pas beaucoup de temps, mais la Chine est très implantée à Djibouti, je crois.
Tout à fait, même il y a une base militaire qui est mise en place, la plus grande base militaire chinoise à travers le monde. Non, mais j'aimerais dire seulement qu'il faut essayer de trouver des solutions à la jeunesse africaine et l'endettement doit être maîtrisé et la balance commerciale aussi, voilà.
Merci Hassan pour votre rapidité et votre brièveté. C'était important d'avoir Hassan depuis Djibouti. Docteur Ralignan, je voulais vous poser cette question. Effectivement, Hassan l'a rappelé, hein, la Chine a choisi Djibouti hein, pour installer sa première base militaire hors de la Chine. Est-ce que l'ouverture de cette base marque une évolution dans les ambitions chinoises sur le continent et dans le monde, docteur Ralignan? Est-ce que la Chine va s'impliquer davantage dans les questions sécuritaires?
Oui, c'est clair que depuis quelque temps, avec l'envoi des forces d'interposition pour le maintien de la paix pour les Nations Unies, aujourd'hui, le plus grand régiment nous vient en fait de la Chine. C'est-à-dire que la Chine, aujourd'hui, est le premier pays pourvoyeur de soldats de maintien de la paix. Donc, ça veut dire qu'il y a une rupture fondamentale dans l'orientation diplomatique de la Chine à se positionner comme aussi une puissance militaire qui est concernée par la sécurité sur le continent, la sécurité de ses citoyens, mais aussi la sécurité aussi de ses entreprises. Il est clair qu'ils ont tiré, en fait, leçon de l'épisode libyen, c'est-à-dire que quand il s'est déclaré la crise en Libye, les Chinois ont été dans l'obligation de demander à ce que les marines, les navires chinois qui accostaient un peu vers le golfe d'Aden, de se déployer et d'aller vers la Libye et d'exfiltrer par moins de 50 000 Chinois qui vivaient en Libye. D'accord. Et c'est pour éviter que ce genre d'épisodes se reproduisent dans le futur qu'ils ont pensé qu'il fallait mieux implanter une base militaire au niveau du golfe d'Aden, particulièrement en Djibouti. Et ça va leur permettre d'abord, s'il y a problème concernant des citoyens chinois sur le continent africain ou des entreprises chinoises, de pouvoir véritablement assurer leur sécurité. Deuxièmement, il y a aussi le convoi des navires commerciaux au niveau du golfe-là, avec la question de la piraterie qui s'était développée au niveau du golfe d'Aden. Ça aussi, c'est une manière aussi de pouvoir sécuriser en fait les navires chinois qui passent au niveau du golfe d'Aden. Donc, tous ces arguments-là, en fait, démontre à suffisance les raisons pour lesquelles la Chine a décidé de disposer d'une base militaire à Djibouti, qui est aussi une zone très stratégique.
C'est très clair. Merci, docteur Ralignang, d'avoir été notre invité. Hein. Je rappelle que vous êtes docteur en sociologie, chercheur associé pour le programme Chine-Afrique du CODESRIA. C'est le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique. Bonne journée, docteur Ralignang.
Ok, merci à vous.
Merci beaucoup, merci à tous hein, de votre participation. On n'a pas le temps d'écouter Manjou qui se méfiait de cette coopération. Thierry nous disait, hein, la Chine et l'Occident, c'est un peu la peste et le choléra. Merci à tous hein, de votre participation. N'hésitez pas à continuer le débat sur notre page Facebook, facebook.com/journaldesauditeurs ou sur Twitter, hein, notre nouveau compte, @jauditeurs. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition du JDA, le porte-parole de l'opposition guinéenne, Alousseini Makanera, sera avec nous. Il répondra à toutes vos questions. Hein. N'hésitez pas à vous inscrire en nous envoyant un mail, par exemple, jda@africa1.com. À demain.